Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à l'anarcho-sexisme et l'anarcho-pro-féminisme. Et nous avons parlé dans une première partie de cette émission de l'anarcho-sexisme contemporain, dans ses pratiques, dans ses discours. On a tenté de l'expliquer, de développer un contre-discours par rapport à lui, et en finissant sur quand même des notes d'espoir sur le fait que malgré tout, il y avait des pratiques et des discours féministes et pro-féministes qui émergeaient des milieux anarchistes aujourd'hui. On espère qu'on peut y participer à travers cette émission, à cette contre-attaque par rapport à l'anarcho-sexisme. Et dans cette deuxième partie d'émission, on voulait revenir un petit peu sur l'histoire de l'anarchisme qui, comme théorie et pratique de contestation de la domination et des pouvoirs, a malgré tout reconduit la domination masculine dans ses discours ou dans ses pratiques, et en même temps a été aussi le théâtre de développement féministe et pro-féministe assez intéressant. Et donc on va revenir dans cette deuxième partie là-dessus, en repartant sans doute de celui qui est à la fois considéré comme le fondateur de l'anarchisme et qui est en même temps le fondateur de ce que notre invité Francis Dupuy-Déry a appelé précisément l'anarcho-sexisme. Et donc ce serait intéressant justement de revenir un peu sur cette figure de Proudhon qui, en plus, n'a pas forcément développé la meilleure critique du capitalisme, ça fait l'objet d'autres émissions, et qui en plus a développé une forme d'antisémitisme assez poussée dans certains de ses écrits. Outre le fait que c'est pas nécessairement la vision de l'anticapitalisme la plus pertinente, c'est en plus une catastrophe du point de vue de l'émancipation vis-à-vis du patriarcat, et de l'abolition de la domination de genre, de la domination masculine. Donc on peut revenir un peu sur cette figure de Proudhon.
Tout à fait. Donc Proudhon, il est extrêmement problématique. Proudhon, en fait, il faut le dire, là, c'est pas un détail dans son œuvre. Et c'est assez troublant quand on a entre les mains des ouvrages de synthèse de la pensée de Proudhon. Il y en a même qui, en fait, n'évoquent pas du tout ces passages. Et il y en a qui les réduisent à une note en bas de page ou enfin une vague référence en passant en disant « Bon, oui, Proudhon, par ailleurs, était aussi misogyne. » Non, c'est pas « par ailleurs, il était aussi misogyne », c'est des centaines et des centaines et des centaines de pages, probablement facilement 600-700 pages dans son œuvre, entre autres dans...
De la justice dans la Révolution et dans l'Église.
Exactement. Donc ça, on a un bon 400-500 pages... Dans cet ouvrage seulement, où il essaie de démontrer à la fois l'infériorité intellectuelle, l'infériorité physique et l'infériorité morale des femmes, donc c'est pas rien. Et en plus, il a des passages dans ces 500-600 pages où il explique clairement qu'en fait, il fait tout ça pour répondre aux féministes de son époque. Donc il n'est pas seulement en train d'affirmer la supériorité mâle sur les femmes et l'infériorité des femmes, mais il dit en plus, je fais ça parce qu'il y a des femmes qui prônent l'égalité entre les sexes et je suis contre l'égalité entre les sexes. Donc là, on n'est pas dans un détail de son truc. Et puis après ça, il y a une œuvre écrite, publiée à titre posthume, qui est La pornocratie, où il en remet une couche de 150 pages. Et ce qu'il écrit est complètement épouvantable, d'une misogynie crasse, et qui aboutit d'ailleurs à des considérations économiques et politiques très précises, si on veut penser l'anarchisme à partir de Proudhon. C'est-à-dire que clairement, pour Proudhon, il doit y avoir une division sexuelle du travail très claire. Les femmes, c'est à l'intérieur et dans le privé, les hommes, c'est dans le public. Donc déjà, ça, d'un point de vue anarchiste, c'est ridicule. Et dans la pornocratie, entre autres, il le dit très clairement, il dit « Les femmes, elles n'ont rien à voir dans l'assemblée du peuple, dans l'assemblée populaire, parce qu'on ne va pas commencer à avoir des femmes qui, par exemple, prennent des positions différentes de leur conjoint dans une assemblée, parce que ça ouvre la voie à la bisbille dans le couple et dans la famille. » Et il dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, dans une famille, il faut un chef, et le chef de la famille, c'est l'homme, etc. Donc là, c'est évidemment, d'un point de vue anarchiste, c'est quand même totalement scandaleux. Et donc, après ça, que des anarchistes s'inspirent de Proudhon, mais surtout discartent cette question comme si c'était un détail, comme si le type, bon, il avait fait une petite... commis une petite erreur, c'est extrêmement problématique.
C'est assez marrant parce que finalement, Proudhon, qui est pensé comme un peu une personnalité centrale de l'athéisme et de la critique du christianisme, finalement, là-dessus, on pourrait presque dire que c'est une forme de christianisme sécularisé. Il reprend l'idée, finalement, que l'idée chrétienne, catholique, de la supériorité des hommes. Et c'est là, effectivement, où on peut quand même un peu rigoler, quand même, de voir cette espèce de penseur central de l'athéisme qui, finalement, reprend des arguments qui, in texto, sont quasiment ceux de l'Église catholique sur les femmes, l'infériorité, etc. etc. Et d'ailleurs, dans ton texte « Hommes anarchistes face au féminisme » paru dans Réfraction, tu cites quand même une phrase de Proudhon dans « De la pornocratie »« Mieux vaut une femme estropiée à la maison qu'une coquette ingambe à la promenade. Mm-hmm. » On voit quand même que Proudhon, d'une certaine manière, justifie des pratiques de violence face aux femmes qui oseraient, d'une certaine manière, se défaire du patriarcat.
Tout à fait. Et donc, il est intervenu dans une revue dont, malheureusement, j'oublie le titre en ce moment, vers le milieu du 19e siècle, parce qu'il a été pris à partie. Donc, Jenny Déricourt, entre autres, et d'autres, Juliette Adam et tout, donc des femmes ont écrit contre Proudhon et contre d'autres hommes, d'ailleurs, Michelet et d'autres, sexistes, etc. Et lui est entré dans un débat, en fait, article contre article, article contre article, et il a dans sa façon de débattre, contre Jenny Déricourt, par exemple, outre qu'il la méprise dans le débat en disant que ses contre-arguments sont absolument insignifiants parce qu'elle n'a rien compris à la grande théorie du grand Proudhon, en plus, il dit à Jenny Déricourt, à peu près textuellement, il dit « Il faut que vous arrêtiez de débattre avec moi parce que c'est un déshonneur pour moi de débattre avec une femme. » C'est un peu comme un duel, quoi. Et vous devriez vous trouver un parrain qui débattrait avec moi, vous voyez. Moi, je ne débat pas avec les femmes. J'ai besoin de débattre avec un homme, de la question des femmes, évidemment. Et donc, après ça, il y a des anarchistes quand même qui l'ont contredit, comme De Jacques, qui le traite de vieux porc et vieux sanglier, tout ça, sur cette question, et qui lui disent « Tu n'es pas un anarchiste quand tu réfléchis sur les rapports entre les sexes. » On pourrait vraiment voir dans ta façon de penser les rapports entre les sexes, les rapports entre les hommes et les femmes, vraiment un rapport d'aristocrate ou de bourgeois mâle face aux femmes, c'est clair. Et donc après ça, ce qui est aussi problématique, c'est que dans l'héritage de Proudhon, évidemment, ces passages sulfureux, on ne les a pas lus, mais on en a entendu parler, donc il faut bien essayer de les gérer d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, j'ai fait un travail dans un texte qui n'est pas encore paru, mais qui éventuellement sera publié, où j'ai vraiment analysé comment les interprètes de Proudhon neutralisent, en fait, comme du matériel radioactif, ces passages. Donc, il y a différentes stratégies. La stratégie la plus simple, évidemment, c'est de ne pas en parler, tout simplement, donc on vient de régler le problème. La deuxième stratégie, c'est de dire... Oui, on a entendu qu'il était misogyne, mais c'est quelque chose d'insignifiant ou de non significatif dans sa pensée, donc du coup, on n'en parlera pas. Une troisième façon de régler le problème, c'est de dire « tout le monde fait des erreurs ». Une quatrième façon de régler le problème, c'est de dire « ben, c'était de son époque ». C'est quand même bizarre pour des anarchistes qui font de l'interprétation de l'histoire anarchiste, parce qu'on sait bien que les anarchistes au 19e siècle, ben, ils étaient de leur époque ou pas de leur époque, on n'en sait rien, mais en tout cas... On valorise le génie de Proudhon pour avoir pensé avant son époque ou au-dessus de son époque, mais sur la question du sexisme, on dit « Ah ben non, ben c'est pas grave, parce qu'en fait, Proudhon ne faisait que reprendre des propos de son époque. » Ce qui, évidemment, est faux, puisqu'en fait, 10 ou 15 ou 20 ans avant, il y avait ceux qu'on a appelés les socialistes utopistes, qui étaient en fait extrêmement pointus sur la question des femmes, et des gens comme Charles Fourier ont écrit des textes qui sont vraiment très forts au niveau de l'égalité entre les sexes, même si c'est les féministes qui ont quand même critiqué, mais quand même... On est dans des préoccupations, là...
Qui sont, en tout cas, c'est largement mieux que Proudhon, quoi.
Ben, c'est vraiment largement... Ben, en fait, il y a au moins le principe de l'égalité entre les sexes, chez les Saint-Simoniens aussi, etc. Donc là, on ne peut pas dire que... Et Proudhon les connaissait. Marx les connaissait aussi.
Alors, Proudhon les a vraiment combattus explicitement, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est même pas arrivé au point de ce qui était un peu, on va dire, le sexisme moyen, la gauche. Il était au-delà de ça.
Ben, en fait, c'est un acteur sexiste et antiféministe important. Il n'était pas juste, il ne faisait pas que reprendre des clichés de son époque. Il était un acteur dans la lutte contre le féminisme. Et donc, quand on dit non, il ne faisait que reprendre quelques clichés ou de son époque, non, son époque, à son époque, il y avait des auteurs féministes il les avait lus et il les contredisait, il les attaquait. Donc, dans une époque où on cherche et
c'est
on
trouve... C'est pas un problème de prise de conscience, quoi.
C'est pas un problème de prise de conscience. Il les avait lus, comme Rousseau, d'ailleurs, si on lit bien attentivement Sophie et l'éducation de Rousseau, dans le chapitre, il y a des passages, il y a deux, trois passages où il dit... Il y a des gens en ce moment qui demandent l'égalité des sexes dans l'éducation et moi je suis contre ça. Donc ils savent à qui ils s'adressent. Et puis enfin, bref, il y a toute une série de stratégies pour minimiser le sexisme de Proudhon, qui en fait sont différentes façons de sauver la réputation de Proudhon et surtout de ne pas réfléchir au fait qu'il disait ça. Mais quand on cherche un peu, vraiment, il faut aller lire ce qu'il a écrit, c'est quand même incroyable. Et après ça, on continue à chercher. Et là, on trouve des trucs à la limite encore pires. Et on comprend bien pourquoi, finalement, il écrit ça. Et ça revient à la première partie de l'émission pour les personnes qui l'ont écouté de l'anarcho-sexiste. C'est-à-dire qu'il y a les hommes anarchistes, nous avons des intérêts matériels concrets à ce qu'il y ait une division sexuelle du travail, à ce qu'il y ait des femmes qui nous servent et à avoir des privilèges masculins. C'est pas simplement une question d'abstraite, là. C'est qu'on a des avantages concrets à être des hommes dans la société contemporaine, y compris dans le milieu anarchiste. Et Proudhon, il le dit dans ses lettres à son frère, dans des carnets, dans des lettres personnelles. Quand il se marie, par exemple, je cite de mémoire, mais il dit des trucs incroyables. Il dit « Moi, je prends une femme pour qu'elle fasse ma soupe, pour qu'elle me masse le soir les pieds, pour qu'elle me fasse des enfants. Elle va remplacer ma mère, etc. Elle ne lira pas je prends une femme qui ne lira pas mes textes et qui ne me prendra pas la tête avec des théories. » Il le dit explicitement. Il prend une femme comme une ménagère, mère d'enfants. Et il a une lettre qu'il écrit à son frère parce que son épouse est tombée malade 3 jours et donc il a dû s'occuper de la maisonnée. Il est découragé, il a perdu 3 jours de travail, il a tellement hâte qu'elle aille mieux, etc. Donc c'est un patriarche de base, là, totalement assumé et totalement conscient des avantages matériels d'avoir une femme épouse. Et là, on est au 19e siècle, là, il est encadré par le droit français de la famille, etc. Là. Et donc quand il écrit, Jenny Déricourt et tout lui disent... T'as beau te dire anarchiste, en fait, t'es en train de prendre la parole au nom et dans les intérêts de tous les hommes, qu'ils soient monarchistes, républicains, conservateurs ou modérés, socialistes ou anarchistes. Ce que tu écris sur l'infériorité des femmes physiques, morales et intellectuelles, sur le fait que les hommes doivent être chefs de famille, t'es un propagandiste du patriarcat, en fait.
Oui, c'est effectivement intéressant. Et là, ça nous renvoie aussi aux travaux de Léo Thiers Vidal, qui a bien montré... Dans son livre, que les hommes ont aussi conscience de certains avantages matériels de leur position d'homme et que du coup, ils vont pas la remettre en cause. Et effectivement, on peut se dire que finalement, c'est assez logique de défendre ses privilèges, etc., etc. Mais quand on se veut anarchiste ou révolutionnaire ou quelqu'un qui, plus généralement, disons, est en faveur de l'émancipation sociale, c'est quand même un peu gros, effectivement, d'en rester à des considérations aussi basses. Voilà, et effectivement, on voit bien que, d'une certaine manière, Proudhon, loin d'être simplement, d'une certaine manière, bien sûr que d'une certaine manière, il est le reflet de son époque, mais il en est le défenseur. C'est ça qui est pire. Exactement. C'est que d'une certaine manière, on pourrait dire que Marx est le reflet de son époque sur cette question. La question des femmes n'est pas très présente. Il en parle un petit peu dans les manuscrits de 1844, etc., etc. C'est plus Engels, à la limite, qui va un peu plus théoriser. Mais là, effectivement, on voit que on pourrait dire que d'une certaine manière, Proudhon s'est fait le défenseur du patriarcat du 19e siècle, en plus un patriarcat abominable, le patriarcat du code civil napoléonien, qui fait des femmes mariées des mineurs civils. Oui. Après Marx, on pourrait dire d'une certaine façon, lui est le reflet de son époque, ni plus ni moins, parce qu'il est déjà quand même pas terrible. Hein. Pour le coup, on peut pas le créditer d'avoir fait grand-chose là-dessus.
Non.
Et puis après, on peut dire qu'à la limite, Engels, lui, pour le coup, était allé un petit peu au-delà de son époque quand même sur cette question. Enfin, on voit bien qu'il y a effectivement un problème central. Et le pire, le Proudhon dans tout ça n'est pas simplement quelqu'un qu'on peut condamner aujourd'hui intellectuellement, mais quelqu'un qui a exercé une profonde influence sur le mouvement ouvrier français et qui a
y compris dans son antiféminisme.
Dans son antiféminisme, exactement.
Oui, pas juste dans sa pensée économique ou mutualiste ou tout ça là.
C'est ça. Voilà, il a exercé une profonde influence sur les artisans français et au niveau de l'antiféminisme, ce qui fait que beaucoup d'ouvriers se réclamant de Proudhon vont par exemple combattre le travail des femmes. Bon, évidemment, le travail dans la société capitaliste.
Entre les femmes dans les syndicats, etc. Oui.
C'est ça. Alors. Bon, évidemment, on pourrait se dire, oui, l'entrée, aujourd'hui, on entend encore ce genre d'argument. Oui, bah, le travail, de toute façon, c'est aliénant. Et, de toute façon, et bien sûr, dans cette émission, on fait une critique du travail, mais pourquoi est-ce que, dans le temps qu'on est dans la société capitaliste, pourquoi est-ce que les femmes ne devraient pas aller travailler et que les hommes, eux, bon, eux, ils seraient contraints, mais les femmes pourraient faire autrement, alors que, d'une certaine manière, en disant ça, déjà, dans la société capitaliste, d'une certaine manière, il vaut mieux quand même avoir un peu d'argent que de ne pas en avoir. Premièrement. Deuxièmement, ça permet quand même d'être indépendant économiquement. On n'est jamais indépendant économiquement vis-à-vis du capital, mais au moins d'être indépendant économiquement vis-à-vis d'une autre personne, ça peut être quand même déjà une forme d'oppression en moins. Et du coup,
de toute façon, je n'ai pas vu quand même beaucoup d'anarchistes se mobiliser contre le droit des hommes de travailler.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour le salaire.
C'est
donc
ça.
Après ça, il y a des anarchistes qui disent « je ne veux pas travailler », il y a des anarchistes qui se débrouillent pour ne pas travailler pour un salaire, donc ça c'est tant mieux pour eux et félicitations. Mais j'ai rarement vu des syndicats anarchistes qui se mettent en grève pour interdire aux hommes de toucher un salaire. Ça, moi, j'ai pas d'exemple historique, mais on a des exemples historiques contre les femmes.
Oui, et là, on voit bien que, effectivement, encore une fois, la critique du travail ou de l'industrie ou de l'exploitation capitaliste est invoquée, mais comme une pure rationalisation d'intérêts matériels qui sont loin. C'est pas du tout une posture anticapitaliste, c'est une pseudo-posture anticapitaliste qui, en réalité, sert à justifier le maintien des femmes dans la dépendance économique des hommes, le fait que, du coup, comme dans la société actuelle, la socialisation passe par le travail, ça, du coup, ça condamne les femmes à être désocialisées, recluses dans l'espace domestique et tout ça. Et clairement, Proudhon est le théoricien de ces pratiques-là qui vont perdurer jusque le début du XXe siècle en France, où il y a encore des syndicats où les anarchistes ont quand même une certaine influence, comme le syndicat par exemple des typographes ou le syndicat du livre, où les femmes vont être exclues du syndicat. Parce que là, c'est encore pire. C'est exclu du droit, d'une certaine manière, bon, alors d'avoir un emploi, puisque là, pour le coup, les deux allaient de pair, mais plus généralement aussi exclu du droit de se défendre face au patronat de manière en tant que femme, quoi. Donc là, on voit quand même qu'il y a, il y a un problème énorme là-dessus. Et à la limite, quand des pratiques sexistes sont dénoncées, c'est uniquement quand, effectivement, il y a le viol par un contremaître. Mais si c'est un autre ouvrier qui viole,
exact.
Là, il n'y a pas de souci, quoi.
Donc après ça, on va débattre, savoir est-ce qu'il faut... Oui, mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas lire Proudhon à cause de ça, ce qui est scandaleux, etc. Il faut lire Proudhon, etc. Et donc, moi, je pense que l'important de se plonger dans ces 500-600 pages, si on veut lire Proudhon, si on veut comprendre Proudhon, l'importance de se plonger dans ces 500-600 pages, comme si on veut comprendre Rousseau, l'importance d'aller lire ce qu'il a écrit sur l'éducation des femmes, par exemple, c'est justement que ça a une valeur contemporaine, pour faire un lien avec la première partie de l'émission. Parce que là, on a un cas clair d'un anarchiste sexiste. Et donc, ça nous permet de comprendre qu'effectivement, les anarchistes peuvent être sexistes. Proudhon en est un exemple. On a 500 pages, 600 pages de texte. On a des lettres personnelles où il explique son rapport avec les femmes et avec sa conjointe, etc. Et donc, ça nous permet de voir que, pour certains anarchistes, l'anarchie, c'est cool, c'est bien, c'est intéressant, c'est l'autonomie, dans la mesure où on a une femme qui s'occupe de toute la sphère privée de notre existence. Et l'homme, comment il s'appelle ? Merde, j'ai un blanc de mémoire, je pense que c'est Lombroso qui a écrit La contre-histoire du libéralisme.
C'est Losurdo, Domenico Losurdo.
Losurdo, exactement. Lombroso, c'est un autre, le criminologue biologisant. Donc, dans une contre-histoire du libéralisme, il fait exactement le même exercice. Il dit, on a beaucoup de penseurs du 18e siècle et du 19e siècle qui ont développé la philosophie ou la pensée libérale, mais qui, par ailleurs, étaient pour l'esclavage. Et il dit, le problème, c'est que dans les interprétations historiques, on a toujours discarté tous leurs écrits sur l'esclavage parce que c'était impossible de comprendre ça dans un cadre libéral. Et il dit, c'est une erreur grave parce qu'en fait, on ne comprend pas leur pensée du libéralisme qui incluait la défense de l'esclavage et qui, en fait, faisait référence dans l'Antiquité, à la pensée, par exemple, de Sparte ou d'Athènes, où, en fait, les citoyens se disaient libres parce qu'ils avaient des esclaves. C'est parce qu'ils avaient des esclaves qu'ils pouvaient être réellement libres, mais libres même du travail matériel. Et Proudhon, c'est exactement ça. Il dit, moi, je suis un anarchiste, je vais être à l'Assemblée populaire et je vais m'exprimer, je vais donner mes idées, etc. Et je vais organiser mon aide mutuelle dans le travail avec mes camarades travailleurs et nous serons des anarchistes qui n'auront même pas besoin de nous occuper des enfants et de la nourriture et du ménage, parce qu'en fait, les femmes sont en dessous de nous, elles sont nos esclaves. En fait, c'est ce qu'il dit. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Et il dit elles le sont parce que biologiquement, elles sont intellectuellement, moralement et physiquement nos inférieures. Et donc ça, ça nous permet, en lisant Proudhon et en lisant Proudhon au complet, pas seulement ce qui nous intéresse, de comprendre qu'on peut être tout à fait anarchiste et sexiste. Il l'était de façon tout à fait explicite. Et donc, toute la question de la première partie de l'émission, genre, ah oui, c'est bizarre, c'est comme une contradiction, ben non, les anarchistes peuvent être tout à fait, comme des libéraux pouvaient être pour l'esclavage, ou comme les démocrates radicaux athéniens de l'Antiquité, ben, avaient des esclaves et des femmes qui travaillaient pour eux, et ils étaient effectivement d'autant plus libres. C'est un peu, c'est pas du tout absurde de dire ça, c'est même pas cynique, c'est un fait empirique. C'est sûr que s'il y a plein de gens qui travaillent pour moi, ben moi je suis plus libre. j'ai plus de temps libre pour faire ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a des gens qui lavent mes vêtements, qui me préparent ma nourriture, qui font le ménage dans ma maison, qui s'occupent de mes enfants. Ben c'est sûr que je suis plus libre. Et pour les anarchistes ou les démocrates radicaux, les libéraux, ben les gens aiment être libres, donc ils aiment bien avoir des gens qui travaillent pour eux.
C'est ça, en fait, exactement. Ça permet de préciser ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire que finalement, l'anarchisme, disons, d'un point de vue, disons comme simplement, sur un plan, disons, purement idéaliste, effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, l'anarchisme, c'est devenu la lutte contre tous les pouvoirs et contre toutes les formes de domination. C'était formulé aussi, d'une certaine manière, déjà à l'époque, au 19e siècle, et par Proudhon lui-même, sauf que pour Proudhon, ça excluait, c'était la lutte, en réalité, c'était pas contre toutes les dominations et contre toutes les formes de pouvoir, puisque pour lui, finalement, la domination masculine et l'oppression des femmes étaient considérées comme quelque chose de naturel. Un petit peu comme, d'une certaine manière, les libéraux concevaient une forme de suffrage universel qui, en réalité, ne concernait que les hommes adultes, blancs, valides, etc., etc. Et là, on voit bien, c'est un peu un mouvement, c'est-à-dire qu'au début, on prend ça comme argent comptant, ah oui, le suffrage universel, ou ah oui, l'anarchisme, c'est la lutte contre toutes les formes de domination et de pouvoir. Après, on voit que, ah bah tiens, il y a des paradoxes ou des contradictions apparentes. Et après, on se rend compte que, bah, il y a un libéralisme réel, d'une certaine manière, un anarchisme réel, comme il y a eu un socialisme réel, et qu'on voit que l'anarchisme réel de Proudhon au 19e siècle, c'est un anarchisme pour les hommes et une domination masculine et une oppression pour les femmes, voilà. Et du coup, s'il relativise finalement, et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'anarchistes sont là dans une forme de défense d'une espèce d'universalisme abstrait, mais bien sûr qu'un universalisme concret où il y aurait effectivement eu une abolition du racisme, de la domination masculine, de la domination de classe, mais oui, très bien. Sauf que cet universalisme abstrait de « on est contre toutes les formes de domination », a servi historiquement et sert encore aujourd'hui à masquer la perpétuation de formes de domination qui en plus sont naturalisées ou sont invisibilisées ou sont passées complètement à côté, quoi.
Tout à fait.
Et du coup, ça nous amène au fait que, heureusement, quand même, dans l'histoire de l'anarchisme, il y a, donc, bah, évidemment, Proudhon, il va y avoir des penseurs anarcho-sexistes qui vont le suivre, mais il y a aussi, et il faut les mentionner aussi, des formes de pensée anarchiste qui vont se développer contre la pensée de Proudhon, contre la société patriarcale en général, et qui vont donner naissance à ce qui est devenu, d'une certaine manière, l'anarcha-féminisme, et c'est important aussi d'en parler.
Tout à fait. Donc là, évidemment, il y a les plus célèbres, probablement une des plus célèbres, c'est Emma Goldman, évidemment, qui a développé une réflexion et des analyses à la fois principalement contre l'État, contre le capitalisme, et en analysant évidemment le lien aussi entre l'État et le capitalisme, et des textes évidemment spécifiquement sur la question des rapports sous-sexe, ce n'était pas le terme à l'époque, mais en tout cas disons la question de la femme, comme on le disait au 19e siècle, même si c'est un vocabulaire un peu archaïque aujourd'hui. Très proche d'elle, aux États-Unis, il y avait Voltairine de Cleyre, dont d'ailleurs, il y a quelques mois, Lux vient de republier un de ses livres, qui était aussi une poète, mais qui a écrit, elle aussi, donc là, dans le contexte aussi fin du 19e siècle des États-Unis. Elle était née aux États-Unis, morte aux États-Unis, alors qu'évidemment, Emma Goldman avait des liens avec l'Europe. Elle était née en Russie, etc., d'origine juive. Et donc, Voltairine de Cleyre, elle aussi, c'est très intéressant, des textes, donc, contre l'État, contre le capitalisme, des réflexions sur l'action directe, des réflexions sur les assassinats, parce qu'on est à l'époque aussi de la propagande par le fait. Emma Goldman aussi a des textes très précis sur la question de la violence politique des anarchistes et des assassinats, entre autres du président américain. Et là, du coup, Voltairine de Cleyre, elle aussi, en fait, sur les violences sexuelles, la question de la domination masculine, un texte très important de Voltairine de Cleyre sur le viol conjugal. Donc, on est à la fin du 9e siècle, vraiment quelque chose de...
Pionnier.
Et donc, il y a aussi, évidemment, des auteurs... il y a Louise Michel qui est associée aussi à cette tendance. Puis après ça, il y a des auteurs qu'on connaît évidemment beaucoup moins. Il faut attendre le travail de maisons d'édition pour avoir des traductions. Donc, par exemple, on peut penser à la maison d'édition La Symétrique, là, qui vient de publier il y a quelques mois le livre La Revanche des Femmes par une anarchiste et féministe chinoise, donc E. Win Zen. J'avoue que je ne sais pas si je prononce correctement, qui vit donc vers 1900, 1915, 1920, qui là aussi, c'est des textes d'analyse critique et de réflexion sur l'origine de l'État, l'origine du capitalisme, l'origine du patriarcat et des réflexions qui croisent en fait des analyses anticapitalistes et antisexistes. Il y en avait aussi du côté des Japonaises. Évidemment, en Espagne, il y a eu tout le mouvement des femmes libres, là, les mourières libres. Donc, tout à fait, dans l'anarchisme, il y a évidemment des penseuses, des théoriciennes, des militantes, souvent les deux ensemble. Emma Goldman était aussi une militante, était une intellectuelle et une militante, et Winzen, pour ce que j'en comprends, était aussi militante, qui ont vraiment travaillé à croiser, souvent, en fait, souvent la question est croisée, la question de l'analyse du sexisme et de la domination masculine et de l'émancipation des femmes chez ces auteurs anarchistes est souvent croisée avec la question du capitalisme et avec la question de l'État aussi, parce que à la fin du 19e siècle et au début du 20e, elle se positionne sur la question, par exemple, du droit de vote et de la lutte pour le droit de vote et des suffragettes, ce qui les amène, en fait, à réfléchir à femme-État, femme-capitalisme, État-capitalisme, femme et domination masculine. Et donc, il y a des réflexions quand même très, très intéressantes qui s'actualisent tout à fait aujourd'hui.
Oui, pour prendre l'exemple du coup de l'autrice de La Revanche des Femmes, effectivement, c'est des analyses qui croisent un petit peu, plus généralement, disons la domination de classe et la domination masculine. Il y a des réflexions relativement intéressantes sur, d'une certaine manière, une critique de est-ce que vraiment le fait que les femmes vont devenir députées, est-ce que ça va changer vraiment grand-chose ? Est-ce que le fait que les femmes aient le droit de vote, est-ce que ça a changé vraiment grand-chose ? Alors, même si on peut penser que finalement le fait que les femmes aient le droit de vote, de toute façon, ça ne va pas forcément nuire particulièrement. Ou alors, on devrait effectivement, en tant qu'anarchiste, refuser le droit de vote aux hommes. C'est oui, un petit exact. Peu toujours ça. Le truc, c'est est-ce que des anarchistes ont raison de refuser le droit de vote aux femmes dans la mesure où les hommes ont le droit de vote, quoi. Ou alors, à la limite, on le refuse pour tout le monde, mais on ne le refuse pas pour une partie de la population, comme l'interdiction du travail de nuit ou des choses comme ça, quoi. Mais d'un autre côté, évidemment, qu'il y a des... Enfin, pour prendre le cas de la revanche des femmes que j'ai lue, il y a évidemment des limites dans deux textes, c'est-à-dire il y a quand même un côté extrêmement... Et ça, peut-être que c'est quelque chose qu'on va retrouver qui est lié à l'époque aussi, hein. Un côté un peu moralisant, c'est-à-dire d'une certaine manière, enfin, vous allez voir toute une forme de qui va critiquer le mariage, ce qui est très bien, mais comme une forme de prostitution, ce qui est du coup pas forcément, enfin, aujourd'hui bien sûr on a conscience du fait que la stigmatisation des travailleuses du sexe, enfin que la stigmatisation du travail du sexe, même si on le fait sous à l'aune de la critique du travail capitaliste ou à l'aune de la critique de l'exploitation patriarcale, c'est pas une bonne chose, quoi. La stigmatisation d'une catégorie de travailleurs ou de travailleuses, c'est pas quelque chose de, en soi, c'est pas quelque chose d'émancipateur et tout ça.
Mais ma compréhension, parce que on retrouve la même chose chez Voltairine de Cleyre et chez Emma Goldman, c'est-à-dire cette idée que le mariage est une forme de la prostitution, et ce qui est évidemment une façon de critiquer le mariage et pas de valoriser la prostitution. Mais et Winzen, je ne sais pas, Emma Goldman, ce qu'on en sait, c'est qu'en fait, elle est extrêmement proche des travailleuses du sexe. Elle a une formation d'infirmière, et à New York, entre autres, elle travaille à aider au niveau de la santé des travailleuses du sexe de New York. Elle fait ça vraiment sur une base assez régulière, et donc je doute que son objectif était vraiment de stigmatiser ce type de travail. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a comme basculé, où effectivement, chez certains anarchistes, y compris masculins, il y a des propos plutôt dénigrants par rapport au travail, c'était le terme prostitué à l'époque, mais par ailleurs, il y a une analyse qui est principalement basée sur la question des inégalités, et en fait, la question de la liberté du travail et de la dignité, la liberté et la dignité qui est aujourd'hui vraiment au cœur, pour ce que j'en comprends, des mobilisations des travailleurs et travailleuses du sexe, et des anarchistes qui les appuient ou qui en font partie, à la fin du 19e siècle, en fait, la question, c'était les inégalités. Et c'était vraiment une analyse sociologique qui disait que ce n'est pas une question de choix. Dans le capitalisme, personne n'a le choix de travailler. Tout type de travail est exploité et aliéné. Et donc, le travail du sexe est exploité, est aliéné par définition. Il n'est pas un travail différent dans ce sens-là, mais en termes de conditions, c'est souvent le pire des travails. Et il est fortement surdéterminé par les divisions sexuelles dans la société, puisque c'est généralement des femmes qui se prostituent, et c'est généralement des femmes des classes pauvres. Et donc, quand on lit les textes des anarchistes sur la prostitution de la fin du 19e siècle, c'est vrai qu'on est vraiment dans un autre univers de référence morale et politique et économique qu'au début du 21e siècle. J'imagine bien que des travailleuses ou des travailleurs du sexe pourraient y voir des propos plutôt dénigrants pour leur travail. Mais moi, la lecture que j'en fais, et comme je dis, je ne suis pas dans cette industrie, je comprends quand même qu'il y a des liens affinitaires et de respect envers les travailleuses du sexe de l'époque. Chez Emma Goldman, je n'étais pas dans sa tête, mais j'en suis persuadé. Elle les connaît personnellement, elle travaille à leur santé. Et surtout, c'est qu'on est aussi à la fin du 19e siècle, dans un système où la loi du mariage n'est pas du tout la loi du mariage du début du 21e siècle. Et donc là, c'est une loi du mariage qui est beaucoup plus restrictive qu'aujourd'hui. Et donc, d'associer le mariage à la prostitution, c'est une attaque forte contre l'institution du mariage de l'époque. Et pour moi, ça fait écho, en fait, à des travaux, je ne sais pas si vous les avez lus, de Paola Tabet sur les échanges économico-sexuels, où là, on dit, ben, en fait, les rapports hétérosexuels sexuels, qu'ils soient monnayés, c'est-à-dire où je mets de l'argent sur la table en disant tel acte sexuel, c'est 20 euros, 50 euros, 100 euros pour tel acte sexuel, ou que ça soit monnayé de façon informelle par je te paye le logis ou je te paye à manger, ou etc., etc., ben, Paola Tabet a dit, c'est un immense continuum, et Paola Tabet dit, entre le mariage formel et la passe sexuelle dans la ruelle, il y a tout un continuum. Et à la fin du 9e siècle, les anarchistes disent « si on est pour l'amour libre, c'est qu'on est aussi pour l'amour libre et gratuit. » C'est un peu comme l'amitié. Donc, on ne critique pas des femmes du prolétariat ou du lumpen prolétariat qui se prostituent parce qu'elles se prostituent parce que les conditions économiques sont tellement terribles, mais ce n'est pas un idéal de vie non plus.
Oui, c'est intéressant effectivement de faire mention des travaux de Paola Tabet, de son livre La Grande Arnaque. On a fait une note de lecture d'ailleurs sur notre site qu'on peut retrouver. Et là-dessus, ça fait penser aussi un peu à une des parties peut-être les moins problématiques et les plus intéressantes du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, où effectivement, elle dit, même à la limite, que sur certains aspects, le travail du sexe au moins permet l'indépendance économique, contrairement au mariage, qui à son époque ne le permet même pas. Exact. Quoi. Donc ça fait quand même une petite différence. Il y a au moins une autonomie formelle dans le travail du sexe, après le travail du sexe libre, parce qu'après il y a un travail du sexe, le travail du sexe libre, entre guillemets, évidemment, oui. Le capitalisme, est-ce que le travail est vraiment libre ou pas, mais je veux dire, au moins où il n'y a pas directement, effectivement, un proxénète qui empoche tous les bénéfices, où là, c'est, effectivement, ça s'apparente plus à une forme d'esclavage.
Pendant la guerre civile, pendant la révolution espagnole, les mourir libres sont fusillés, les proxénètes.
Oui.
C'est une façon de régler le débat entre réglementaristes et abolitionnistes de façon assez radicale. C'est le proxénète, on le fusille.
Et du coup, et après, évidemment que dans une optique anarchiste, dans une optique anticapitaliste, bien sûr que le but, in fine, c'est l'abolition du travail au sens capitaliste. On a pas mal développé dans d'autres émissions. Et y compris du travail du sexe. Après, ce qui est vraiment important par rapport à ça, en plus on peut analyser le travail du sexe comme étant à la croisée de la domination capitaliste et de la domination patriarcale, ce qu'on concluait un petit peu dans notre note de lecture sur la grande arnaque, c'est que tant qu'il y aura du travail capitaliste, il y aura du travail du sexe et qu'il n'y a pas de raison particulière et qu'au contraire, il faut plutôt à la limite prôner une forme de solidarité et en finir avec une forme de stigmatisation. Et je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux autrices et aux auteurs de la fin du 19e siècle d'avoir ce genre de propos, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est important, par exemple, de ne pas faire une critique du travail salarié en réutilisant le concept de prostitution, tout comme, par exemple, au 19e siècle, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'était un peu malaisé de critiquer le salariat en disant c'est de l'esclavage blanc. Voilà, c'est par exemple les travaux de David Rodlinger le salaire du blanc qui ont montré ça. Et je pense que, enfin voilà, qu'il faut, disons, resituer ces textes dans l'époque, notamment la revanche des femmes. C'est une critique extrêmement intéressante du patriarcat chinois de son époque. Après, évidemment, on peut y voir un certain nombre de limites. Et l'important, simplement, c'est de ne pas reprendre ses limites aujourd'hui. Parce que finalement, même avec toutes ces limites, la revanche des femmes, c'est en avance sur son époque, très clairement. C'est contrairement à Proudhon, qui lui, pour le coup, était un défenseur ferme de son époque. Le contexte a changé, mais c'est juste qu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus dire le mariage c'est la prostitution, ça pose effectivement, ou le travail c'est la prostitution, ça pose un certain nombre, ça peut poser un certain nombre de problèmes.
Et du coup, par contre, chez Ewen Zen, j'ai été très étonné de découvrir, dans le livre donc La Revanche des Femmes, elle propose un passage où, pour faire le lien avec vraiment le thème de l'émission aujourd'hui, où elle critique en fait les hommes pro-féministes chinois. Je ne sais pas si t'as retenu ça. Et donc elle distingue par rapport au féminisme et à l'émancipation des femmes. Donc on était en Chine au début du XXe siècle. Elle dit il y a les appels actifs. Ça c'est les appels des femmes elles-mêmes à leur propre émancipation. Et il y a les appels passifs. Donc, je ne sais pas au niveau de la traduction, là, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est formulé en français. Et les appels passifs, c'est les appels des hommes chinois, pas nécessairement anarchistes d'ailleurs, qui sont pour l'émancipation des femmes donc, au début du XXe siècle en Chine. Et elle dit, ils sont sympathiques, ces hommes chinois qui disent qu'il faut que les femmes soient émancipées, etc. Ils se présentent comme nos amis, nos camarades, nos alliés, etc. Mais elle dit, j'y vois quand même deux, trois soucis, quoi. Il faut quand même réfléchir à cette solidarité, parce qu'elle voit chez ces hommes, et des féministes contemporaines ont vu aussi chez les hommes pro-féministes certains problèmes, dont Aude Vidal, par exemple, qui a un blog d'écologie politique, où elle a écrit un texte, par exemple, sur le pro-féminisme toxique, où elle voit que bien des hommes pro-féministes, ou les hommes pro-féministes en général, jouissent d'un certain privilège aux yeux des féministes. Ils passent pour les bons mecs ou les bons gars. C'est bon pour notre propre ego, d'ailleurs, aussi, on se sent supérieur aux autres hommes, etc. Et donc, Ewen Zen, déjà au début du XXe siècle, disait, chez les hommes pro-féministes chinois, donc, que ça leur permettait, disait-elle, d'avoir l'air plus civilisé, parce que là, c'était en référence avec les idées qui venaient d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors, elle disait, ces Chinois qui prônent l'émancipation des femmes ont l'air d'avoir l'air plus civilisé que le Chinois lambda, disons, de l'époque. Et donc, c'était une posture narcissique, entre autres. Ça leur permettait d'attirer l'attention sur eux et l'admiration, et y compris les femmes, qui pouvaient leur être reconnaissantes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que dès le début du XXe siècle, donc chez cette auteure anarchiste et féministe chinoise, il y a déjà une mise en doute de, oui, bon, les hommes pro-féministes, ils sont sympathiques, mais qu'est-ce que ça cache réellement? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec la posture d'hommes pro-féministes qui est évidemment travaillé aussi aujourd'hui par des féministes?
Oui, effectivement, là, on fait peut-être un bond dans le temps, même si on pourra consacrer d'autres émissions, effectivement, plus spécifiquement à l'histoire de l'anarcha-féminisme, ou par exemple, on en a un petit peu parlé dans d'autres émissions, mais des problèmes de sexisme pendant la guerre d'Espagne. Là-dessus, on peut renvoyer à l'émission qu'on a fait avec les géminologues, sur le fait, par exemple, qu'il y a eu une assimilation à un moment par la propagande de la CNT de les femmes sur le front, ça veut dire des maladies vénériennes, ce qui est quand même vraiment douteux. Et puis très rapidement, la CNT, comme tout le camp antifasciste, a rapidement accepté de renvoyer les femmes aux cuisines et à la vaisselle.
De les désarmer, de les
retirer du front. Donc voilà, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais pour revenir à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question intéressante, c'est que faire en tant que... qu'est-ce que c'est qu'être pro-féministe, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça n'implique pas. Par exemple, on peut penser qu'est-ce que ça n'implique pas de croire effectivement à une supériorité morale, ou du coup d'en profiter pour l'ouvrir encore plus, ce qui est quand même contradictoire avec normalement le fait qu'être un homme pro-féministe, c'est notamment le fait de de peut-être arrêter de parler à tort et à travers, mais plutôt d'écouter, parce qu'en général, d'ailleurs, on apprend des choses quand on écoute.
Exact.
Mais du coup, voilà, quelle piste ça pourrait impliquer, selon toi, effectivement, d'être un homme pro-féministe, notamment anarchiste, oui, aujourd'hui.
Donc, rapidement, parce que ça tire à sa fin, mais effectivement, dans un autre texte, j'ai proposé la notion de disempowerment, donc il s'inspire évidemment de l'empowerment, qui est une idée d'essayer de réduire notre pouvoir individuellement et collectivement en tant qu'homme dans les réseaux militants et anarchistes, par exemple, en m'inspirant évidemment des travaux de Léo Thiervidal ou d'autres, ou aussi des féministes qui m'ont interpellé ou qui m'ont critiqué ou qui m'ont dit de faire attention. Et j'en suis arrivé à une conclusion tout à fait pessimiste, d'ailleurs, pas joyeuse du tout pour nous les hommes, mais c'est pas très grave de toute façon. Que en fait c'est à peu près c'est en fait c'est, je pense que c'est impossible d'avoir une position pro-féministe et de ne pas être considéré comme une nuisance à un certain niveau par certaines féministes. Je pense qu'il faut simplement, donc il va y avoir des féministes qui vont trouver sympathique notre position ou notre intervention à tel ou tel moment, mais je pense que nécessairement il va y avoir des féministes qui vont dire oui, mais quand même c'est pas 100% positif. Et ça, c'est simplement le fait que c'est pas notre lutte. Et que la lutte des féministes, ben, elle implique en fait une lutte contre les hommes. Et donc, nous, si on veut être auxiliaire ou complice ou allié, dans la mesure où on fait ça, ça ne peut pas être 100% bénéfique pour le mouvement. C'est ma compréhension que j'en ai. Je ne dis pas que ça ne peut pas être bénéfique à certains moments ou qu'on ne peut pas avoir un rôle de complice qui peut être utile aux yeux de certaines féministes ou même plusieurs féministes à certains moments. Mais je pense que c'est toujours nécessairement minimalement problématique. Je suis certain que, par exemple, que juste cette émission, il doit y avoir des féministes qui se disent « Oui, bon, ils sont bien sympathiques, les deux gars, mais ça aurait été quand même plus intéressant de voir Christine Delphi et Judith Butler en dialogue, par exemple. » J'invente un truc, et ces deux heures où on écoute deux types réfléchir, ben, ça aurait été encore mieux si ça avait été deux femmes qui discutent. Donc déjà, là, on a un truc où on n'est pas des femmes, quoi. Et la lutte des femmes, c'est pour les femmes, par les femmes, pour les femmes, etc. Nous, on n'est pas des femmes, donc on peut essayer d'aider, mais je pense qu'à chaque fois qu'on aide, on peut quand même faire grimacer ou embêter ou considérer ou on peut être considéré par certaines féministes comme problématique.
Après, à la limite, par contre, ce genre d'émission peut être peut-être plus intéressant. Je pense d'ailleurs que c'est pas tellement une émission effectivement pour les femmes.
Oui, j'espère qu'on qu'on s'adresse surtout à des hommes.
C'est ça. Enfin, là, très clairement, d'autres fois, par exemple, j'ai déjà invité Christine Delphi, et là, pour le coup, c'était une émission vraiment plutôt pour les femmes. Mais il y aura d'autres émissions avec notamment des anarcha-féministes sur des sujets proches, mais qui, du coup, s'adresseront plutôt aux femmes. Mais en tout cas, par contre, je pense que cette émission peut être intéressante pour des hommes qui, effectivement, prendraient conscience ou ont déjà pris conscience de ce problème. Et effectivement d'être à la fois anarchiste ou révolutionnaire ou en faveur de l'émancipation sociale et en même temps des dominants. Si on est un minimum matérialiste, on peut se dire que, bah oui, évidemment, tant qu'il y aura du patriarcat, on sera des hommes et du coup, on sera un minimum problématique puisqu'on sera un minimum au moins des figures, même si ultra minimaliste, même si très sympa, etc., de l'oppression. Par contre, ce qu'on peut, à la limite, c'est effectivement, comme tu proposes avec ton concept de disempowerment, diminuer, je pense, très fortement notre pouvoir de nuisance, au moins, et puis diminuer aussi le pouvoir de nuisance des autres hommes. Voilà, si, évidemment, on ne peut pas avoir une conception de la révolution où c'est uniquement les hommes qui vont réduire leur pouvoir de nuisance de manière bienfaisante, parce que je pense que si on a un minimum matérialiste, on peut se dire que la révolution féministe sera faite par les femmes, pour les femmes et contre la classe des hommes, peut-être pas contre chaque homme individuellement, mais contre la classe des hommes. Elle aura pour but d'abolir les privilèges masculins et ça impliquera forcément un moment de confrontation. Mais en tout cas, qu'il y a aujourd'hui, d'une certaine manière, un travail déjà à faire de disempowerment, de renonciation au maximum de privilèges, parce que bon, après il y a des privilèges qui sont donnés par la société, donc c'est un peu difficile d'y renoncer, mais au moins dans les milieux militants, dans les lieux privés, etc., il y a un vrai travail à faire là-dessus. Après, je pense que ça va être compliqué quand même de tirer des conclusions sur, en cas de révolution, quelle doit être l'attitude des hommes en cas de révolution antipatriarcale et tout ça. On pourrait considérer ça comme des formes de traître, d'une certaine manière, de traître à la classe des hommes.
C'est ce que des féministes ont dit, oui, elles ont besoin de plus de traite à leur classe d'hommes.
C'est ça.
Parce que je ne sais pas si la question c'est la révolution, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs insurrections féministes. Donc, c'est peut-être pas une révolution globale qui fait tomber le patriarcat, mais le milieu anarchiste est régulièrement la scène d'insurrections féministes, donc des actions ou des pamphlets ou des interpellations ou des critiques féministes que je vois comme que j'interprète comme des mini-insurrections, des insurrections à l'échelle du mouvement. Et effectivement, à ce moment-là, je pense qu'il faut essayer, si on essaie d'être minimalement cohérent en tant qu'homme pro-féministe, il faut essayer de, dans la mesure du possible, des fois les situations sont complexes et confuses, mais oui, c'est ça exactement, de prendre la position des camarades femmes. Et surtout, et là, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour nous. On n'est pas des victimes là-dedans, mais je pense que c'est ça justement qui est en jeu. C'est si on n'est pas seulement des alliés ou des... mais si on est réellement des complices dans leur lutte, est-ce que, comme tu viens de le dire, on est capable de... Et là, on peut avoir un rôle, je pense, de complice et d'auxiliaire tout à fait utile. C'est plutôt que d'expliquer aux autres femmes comment faire, par exemple, ce qui est évidemment tout à fait ridicule, c'est de se confronter à d'autres hommes. Mais se confronter à d'autres hommes, ça peut aussi impliquer rompre des camaraderies ou rompre des amitiés. Là, du coup, il y a un vrai coût à être pro-féministe. C'est pas, on n'en tire pas que des gains, c'est-à-dire des gains symboliques ou des gains de reconnaissance par les femmes ou les féministes qui disent « Ah, toi, t'es vraiment sympa, etc., tu nous aides bien, merci. » Mais non, on peut aussi... parce qu'en fait, les féministes, elles, au quotidien, j'imagine qu'elles perdent des choses à être femmes et elles perdent des choses aussi à être féministes.
Voilà.
Et si on est homme pro-féministe et qu'on ne fait qu'en avoir des avantages, avoir une tribune, être reconnu comme quelqu'un de sympathique, de plus progressiste, etc., un peu comme Ewe Zen disait des hommes pro-féministes chinois du début du XXe siècle, ben, c'est tout bénéfice pour nous, c'est un peu absurde, quoi. Et donc, là, c'est quand on se confronte à des amis, à des camarades, à d'autres hommes, qu'on brise...
La solidarité masculine.
La solidarité masculine, la bonne ambiance. Par définition, on est évidemment des fois dans des situations de non-mixité masculine entre hommes. Ça n'a pas besoin d'ailleurs d'être un moment militant. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on connaît, des pratiques qu'on voit ou qu'on connaît de nos amis ou de nos camarades ou de nos frères, ou etc. Ben, est-ce qu'on est prêt à mener le combat là? Et là, évidemment, avoir... des coûts, c'est-à-dire des coûts dans le sens où peut-être qu'on perd des relations.
Oui, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire qu'évidemment, en étant des traîtres à la classe des hommes, à la classe du coup des dominants, hein, sur le plan du patriarcat et de la domination masculine, évidemment, être un traître, ça a d'ailleurs principalement des désavantages, puisque des désavantages matériels. Pour prendre un exemple, même si, bon, évidemment, lui, pour le coup, n'était pas du tout anarchiste. Mais enfin, si, on peut prendre même des exemples dans l'anarchisme. Enfin, on peut prendre l'exemple de Marx ou de Kropotkin, qui, effectivement, venait de classes sociales relativement aisées. Hein. Kropotkin était quand même un prince. Il faisait partie de l'aristocratie russe. Il y a un coût matériel énorme à aller rejoindre l'anarchisme. Mais, d'un autre côté, finalement, est-ce que c'était mieux de rester aristocrate russe ou de rester un petit bourgeois allemand? Et peut-être que, du coup, ça implique de... Évidemment, on n'est pas dans une conception complètement idéaliste de la révolution ou des insurrections, etc., etc., où on considère que la question des intérêts matériels n'a aucune importance. Enfin, en tout cas, il ne faudrait pas que la question de l'engagement soit uniquement une question d'intérêt matériel. Et c'est pour ça que parfois, c'est un peu limité de dire « Oui, la classe prolétaire a intérêt au renversement du capitalisme ». Bon, déjà, c'est compliqué, parce que tant qu'on n'a pas vu l'après-capitalisme, jusque-là, on voit juste qu'on a intérêt à gagner sa croûte pour survivre, quoi. Et après, il y a aussi le fait que... est-ce que c'est que ce genre de discours sur l'intérêt, ça peut aussi mener à dire « Oh bah, on a intérêt effectivement à des dominants mecs ou blancs ou hétéros, et donc du coup, défendons ça ». Donc il y a effectivement, être un homme pro-féministe, ça implique un certain nombre de coûts. C'est pas uniquement quelque chose qui va dans notre intérêt, et finalement, peu importe, sans finalement que on ait forcément à concevoir une vision un peu sacrificielle. C'est pas non plus ça, quoi. Être un homme pro-féministe, c'est pas non plus une forme de sacrifice, puisque Van Egem a pas mal critiqué la posture un peu sacrificielle du militant pour la révolution. Ça peut aussi avoir des aspects, perdre des privilèges, ça peut aussi avoir des aspects humains relativement intéressants. C'est-à-dire que on peut nouer des contacts un peu plus riches quand c'est pas dans le cadre de relations de domination que quand c'est dans le cadre de relations de domination. Même si, évidemment, il ne faut pas faire, entre guillemets, c'est pas le principal aspect hein, du proféminisme, mais enfin, en tout cas, ça peut permettre de créer des nouvelles relations qui soient différentes des relations, finalement, qui sont généralisées dans la société actuelle et qui, finalement, dans le milieu anarchiste, pour le coup, tranche pas tellement. Peut-être qu'à un moment, on a parlé un peu des milieux libres dans la première partie de l'émission. L'idée des milieux libres, c'était de vivre aujourd'hui et maintenant des rapports différents, des rapports finalement que, par exemple, les marxistes repoussaient au communisme lointain et tout ça. Et du coup, ça a un aspect qui pouvait être très intéressant de vivre aujourd'hui et maintenant d'autres rapports sociaux. Et aujourd'hui, peut-être qu'une posture proféministe peut permettre de vivre des relations au moins légèrement différentes. Après, évidemment, quand une fois qu'on a dit ça, et l'expérience des milieux libres montre très bien, c'est est-ce que c'est vraiment si différent que ça ? Parce que l'échec des milieux libres montre bien que, en fait, bah non, c'était pas complètement différent, et qu'en fait, il y avait plein de reconductions des relations de pouvoir, et c'est pour ça que, d'ailleurs, de cet échec est née toute une frange de l'anarchisme un peu plus portée sur l'éducation, la pédagogie, etc., etc. Et puis, d'autre part, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il ne faut pas des mouvements sociaux de plus grande ampleur et tout ça ? Enfin voilà, ça pose des questions un peu plus larges, quoi. Donc, en tout cas, voilà, on espère que cette émission aura permis de, surtout aux hommes qui nous écoutent, de réfléchir un petit peu de manière critique sur les privilèges communs à tous les membres de la classe des hommes, sur l'identité masculine qui découle de ces privilèges. Hein. L'identité masculine n'est pas a priori, mais elle est a posteriori. De voir que le milieu anarchiste était traversé, malheureusement, par ce qu'on a appelé la masculinité toxique et par même la domination masculine de manière plus générale, que malgré tout, il y avait des pistes, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait finir, que malgré tout, il y a des pistes pour des pistes de lecture ou de pratique ou de discussion, de nouveaux rapports humains, pour essayer de diminuer au moins, en tant qu'homme, notre pouvoir de nuisance, de se désempowerer. De trahir, hein, même si ce mot a une connotation négative, mais je pense que pour des anarchistes, ils ne devraient pas avoir finalement trahir la classe des hommes. C'est un petit peu comme déserter l'armée, c'est quand même plutôt un geste. Soumis. Voilà, c'est ça. Et voilà, on espère que cette émission m'aura participé un petit peu d'une dynamique plus générale, que les hommes cessent d'être des freins à l'émancipation des femmes et à l'abolition de la domination masculine, de la masculinité, de la féminité et de tout un tas de choses qui empoisonnent un peu la vie des hommes et énormément la vie des femmes. Voilà, merci Francis.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.